Alexandra Badea, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour théâtre.com et Larche Éditeur. Donc, bonjour Colline Rouge.
Bonjour.
Alors Alexandra, vous êtes auteur, metteur en scène, scénariste, scénographe, bientôt romancière. Vous êtes roumaine, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure d'art dramatique et cinématographique de Bucarest. Vous avez suivi une formation de metteur en scène. Entre 2008 et 2010, vous créez trois pièces de Mihalena Mihailov, Le complexe Roumanie, Comment Barbie traverse la crise économique et Google Mon pays. Vous créez également Cet enfant de Joël Pommerat au théâtre municipal de Brasov et Contrôle d'identité, publié en 2009 à l'Arche Éditeur, au Tarmac de la Villette à Paris. En 2011, vous écrivez un scénario pour un court-métrage, Solitude, sélectionné cette année par le Festival de Clermont-Ferrand. Enfin, en 2012, après Contrôle d'identité, vous publiez Pulvérisé, une pièce de théâtre qui sera mise en scène par Jacques Nichet et Aurélia Guillet en février 2014 au Théâtre national de Strasbourg. Alexandra Badea, avec toutes ses créations, ses publications, à la fois dans l'univers du théâtre et celui du cinéma, on peut dire que vous avez plusieurs cordes à votre arc. À l'heure actuelle, vers quelle activité artistique vous tournez-vous le plus et avec laquelle vous sentez-vous le plus en phase?
À l'heure actuelle, je suis plutôt dans l'écriture. C'est parce que je pense que le rythme d'écriture, il est beaucoup plus intense que le rythme de production. Donc, j'écris beaucoup et j'écris sur plusieurs formats. J'adore écrire pour le cinéma. Je pense que pour le cinéma, j'écris le plus facilement, sans beaucoup de peine, parce qu'il n'y a pas la recherche de la forme, de la langue en fait. Il y a une recherche de la forme. Mais c'est plutôt la forme du scénario, la structure, tout ça, mais ce n'est pas l'obsession de la langue. Pour le théâtre, j'écris assez vite aussi parce que bon, je me suis habituée, je pense. Et en fait, chaque sujet impose sa forme. Il y a des sujets qui me traversent comme ça, que je porte en moi pendant un temps. Et à un moment donné, je sais que ça va être un texte de théâtre, ou ça va être un scénario de court-métrage ou de long-métrage. Et là, depuis quelques temps, j'ai commencé à écrire un roman, en fait. Et là, je commence à écrire le deuxième. Donc voilà, je navigue entre les trois et ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai de moins en moins de temps pour mon travail de metteur en scène et surtout pour le travail de production, d'entamer toute la machine qui est derrière une création. Et c'est aussi quelque chose qui se passe, qui est assez étrange, c'est qu'en tant que metteur en scène, je suis plutôt intéressée aujourd'hui d'écrire des matériaux, de travailler sur des matériaux. Donc, même je suis de moins en moins intéressée de monter mes propres textes de théâtre. Je suis plus intéressée de travailler sur de bouts de textes que j'assemble sur le plateau. J'écris aussi, parfois quand je suis en voyage ou quand j'ai du temps, j'écris aussi des choses, ce que j'appelle, bon, ce qu'on appelle l'écriture automatique. Donc, j'écris comme ça en flux continu. Et puis, parfois, je retravaille toute cette matière. Donc, au plateau, j'ai de plus en plus envie de travailler comme ça, de prendre des matières et de les assembler.
Donc l'écriture a pris le pas sur la mise en scène?
Et l'écriture a pris le pas sur tout.
D'accord. Alors on aimerait revenir sur votre travail de metteur en scène. Excusez-nous, mais ça nous intéresse. Comment choisissez-vous les textes que vous mettez en scène?
J'ai toujours monté du théâtre contemporain. J'ai fait une école assez classique. C'est une école qui suit la tradition russe. Mais notre prof, on était sa dernière promotion et il a compris qu'il y avait quelque chose qui changeait. Donc du coup, il nous a laissé vraiment d'aller vers les univers qui nous intéressaient, vers les textes qu'on avait envie de défendre. Donc j'ai commencé assez vite de travailler sur des textes contemporains qui ont un rapport avec la société d'aujourd'hui, avec les mutations qui s'opèrent dans le monde actuel. Et plus j'avançais dans cette recherche, plus j'étais insatisfaite de ce que je trouvais, parce que je pense que je suis un lecteur assez paresseux. Donc, à un moment donné, il y a eu le besoin d'écrire, c'était aussi un besoin personnel. Donc, voilà, il y a eu tout ça qui a fait que j'ai écrit un premier texte, Monde d'emploi, qui est, je l'ai conçu plutôt comme des matériaux. Donc, c'était quelque chose qui partait beaucoup de mon expérience personnelle, de la transition entre un pays et l'autre, de mon arrivée en France, de la période d'adaptation ou d'inadaptation.
C'est sévère, hein?
Et
Oui,
oui,
sur le niveau
c'est comme
d'emploi,
ça.
c'est.
C'est un texte qui est sorti, comme ça, c'est une langue qui venait et que j'avais envie de la transcrire. Donc, c'est pas un texte très, très construit. Et donc, au moment où j'ai commencé à écrire mon emploi, je me suis rendu compte que j'ai j'ai plus envie j'avais de moins en moins d'envie d'aller vers d'autres textes. C'est pas parce qu'il y a des textes que j'adore, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que je pouvais plus monter d'autres textes en France. Parce que là aussi, c'est une histoire. Moi, j'écris que en français. Donc, quand j'ai eu une période où j'ai travaillé beaucoup en Roumanie, après j'ai un peu arrêté parce que ça me prenait trop de temps et trop d'énergie et que je perdais ce temps pour l'écriture et j'avais pas envie de perdre ça. Donc, au moment où j'ai commencé à travailler en Roumanie, c'était clair que je peux pas travailler avec mes textes parce que j'écris en français, que ça aurait été impossible pour moi de traduire. Et déjà, j'ai un problème, je pense, avec ça, on peut en parler des heures. J'ai un problème avec ma langue maternelle, donc du coup, je pense que la traduction qui me posera le plus de problèmes, ça serait la traduction en roumain. Donc, j'avais pas le temps de travailler là-dessus. Et puis, mes textes, je pense qu'ils ont des structures qui ne pourraient pas passer à l'heure actuelle dans le théâtre en Roumanie. Parce que en Roumanie, on cherche pourtant un théâtre assez classique dans la structure. Avec Mihaela Mihailov qui a, sur tous les textes, elle a travaillé plutôt, c'était presque des commandes, en fait pas des commandes, mais on a trouvé le sujet ensemble, on a, sauf le premier qui est un texte qu'elle a écrit et puis qu'elle a retravaillé au plateau, mais les deux autres c'était vraiment, on avait choisi une thématique en commun et puis elle a travaillé, on a travaillé au plateau, c'est elle qui a écrit le texte, mais c'était vraiment lié au processus de création. Donc et là elle déjà, elle a innover la langue, la structure et tout ça, mais c'est très compliqué d'imposer ces formes-là. Donc du coup, Barbie, comment Barbie traverse la crise économique, qui est peut-être le texte le plus radical dans la forme et dans la langue, c'est un texte qui a été joué très peu de fois en Roumanie et qui est complètement enterré par la critique. Il a bien fonctionné à Timișoara, dans la ville où il a été créé auprès du public, parce que c'est une ville qui bouge, les gens sont intéressés par d'autres formes et tout ça, il y a une demande, mais au moment où on est allé à Bucarest, au Théâtre National, dans une institution très classique, avec un passé énorme et tout ça, ça a été
mais justement, en Roumanie, cette écriture au plateau ne pourrait pas exister. En fait, si j'ai bien compris, on est sur un théâtre classique, et l'écriture qui se fait avec le metteur en scène, sur le plateau... C'est pas possible.
C'est difficile. Moi, quand j'ai proposé Pomra, j'ai eu du mal. Et déjà, cet enfant, c'est une écriture assez classique, on peut dire, dans la structure du texte. Donc, quelqu'un peut la lire, même un directeur de théâtre très classique, il comprend un peu de quoi ça parle. Donc, quand tu viens avec quelque chose d'éclaté et tout ça, bah, il faut savoir que c'est que maintenant, bon, pas que maintenant, mais depuis quelques années, 5 ans, peut-être pas plus, que des auteurs comme Sarah Kane, comme Lars Noren, comme Marion Bourks commencent à être montés en Roumanie, mais très difficilement. Pour un jeune metteur en scène, c'est très difficile d'aller avec un auteur comme ça et d'entrer dans un théâtre. La dernière fois, quand on m'a proposé quelque chose en Roumanie, j'ai envoyé un texte d'un auteur que je défends beaucoup et que j'ai monté aussi, Nicoleta Isinencu, qui est un auteur moldave. Et qui a vraiment une recherche très 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 personnelle, très très radicale. J'aime beaucoup comment elle écrit et ce dont elle parle. Et le directeur, il a lu le texte et il a dit ben non, c'est trop, mon public ne pourra pas avoir accès à ça. Est-ce que tu voudras pas plutôt monter une comédie de boulevard française et tout ça? J'ai dit ben non, attendez, vous êtes un peu trompé d'adresse. Donc voilà, c'est un peu comme ça, mais il y a eu des périodes comme ça d'ouverture. Là, c'est une période de fermeture depuis un moment. Peut-être que c'est aussi là, je sais pas, la crise économique, tout ça. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça que je me suis un peu arrêtée avec ma pratique de metteur en scène en Roumanie. Et puis, voilà, c'est ça le rapport.
D'accord, donc dans le prolongement des pièces, comment appréhendez-vous les créations de vos pièces, Burnout à la Comédie de Reims, donc qui va se jouer du 7 mars, donc c'est
demain,
au 15 mars 2013, pulvérisé au Théâtre National de Strasbourg. Avez-vous le projet de mettre en scène vos propres pièces? Vous y avez répondu, visiblement, vous préférez mettre en scène les autres.
Oui, là je travaille sur un projet, mais qui est vraiment l'écriture de plateau autour des murs de séparation. Donc c'est un texte qui se construit. On a fait une première étape de travail à la maison des métals loin des sombres. Donc il y a une première couche d'écriture, mais je ne pourrais pas l'appeler un texte à l'heure actuelle, mais qui va se développer au fur et à mesure des avancées. Et puis j'ai un projet pour la saison prochaine, normalement, sur Je te regarde, un texte que j'ai écrit en résidence. Donc c'est un texte déjà écrit. Donc il y a encore quelques, disons, textes que j'ai écrits et que j'ai envie de monter, mais il y en a d'autres que je voudrais laisser aux autres metteurs en scène. Et par exemple, Burnout, c'est un texte que je l'ai écrit dans l'urgence de parler du monde du travail, dans le contexte, il y a quelques années, où on avait un discours politique assez agressif là-dessus, avec le travailler plus pour gagner plus et tout ça. Et puis, il y avait aussi la vague de suicide chez Renault, chez France Télécom, il y avait tout un... Et je l'ai écrit vraiment, c'est un texte que j'ai écrit, je pense, dans 4 jours, la première couche et tout ça, parce que j'étais dans l'urgence, j'ai travaillé sur les discours politiques déstructurés et tout ça. Mais c'est un texte que je ne trouvais absolument pas la forme scénique pour le faire, moi, en tant que metteur en scène. Donc j'ai fait des lectures, mais je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Et après, Jonathan Michel, qui est le metteur en scène qui va le faire à Reims, il l'a trouvé, je pense, il a lu le livre. Voilà, c'est aussi l'avantage que le texte il soit publié. Et ça, c'est vraiment... Il y a peu d'éditeurs, hein. Il y a de moins en moins d'éditeurs en France qui font ce travail en amont, parce qu'en général, on publie un texte quand il sera créé. Et voilà, là, je fais encore ce travail de publier des textes sans qu'il y ait une production forcément. Donc ça facilite aussi la circulation des textes. Donc lui, il a lu et moi, j'ai vu une étape de travail et c'est vraiment, je pense qu'il a trouvé la forme. Bon, je pourrais pas dire parfaite ou idéale parce que ça n'existe pas. Il y a toujours d'autres possibilités de le faire, mais une forme très 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 intéressante pour ce texte. Et puis pour pulvériser, c'était une résidence que j'ai fait en Rhône-Alpes dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Théo Argence de Saint-Priest, suite à l'invitation du metteur en scène Alain Courrel, qui m'avait proposé de travailler là-bas sur le territoire et de trouver un thème qui soit quand même en rapport avec ce qui se passe et ce qui s'est passé dans cette ville. Donc il y a eu l'idée de travailler auprès de, pareil sur le travail, mais sur la sous-traitance, sur la délocalisation, sur des choses, sur des phénomènes qui ont affecté les habitants de cette ville. Il y a eu pulvérisé, j'ai envoyé le manuscrit à l'Arche, et l'Arche l'a envoyé à des metteurs en scène. Et là, Jacques Michet l'a lu, et puis il l'a donné à Aurélia Guy aussi, parce qu'il travaille depuis longtemps ensemble. Donc il y a eu ça, il y a eu cette création qui a été montée. Donc moi, au moment où j'ai écrit Pulvérisé, je savais que ça va pas être un texte que je vais monter, et je l'ai pas écrit pour le monter. Après, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, ah, dommage, parce que j'aurais aimé, c'est un texte que j'aurais aimé monter. Et suite à ça, j'ai écrit Je te regarde, qui a quelque chose en commun avec Pulvérisé dans la structure. La thématique, elle est complètement autre chose, parce que là, on est dans la surveillance. Donc c'est de là aussi, je pense, que c'est venu le désir de monter Je te regarde.
Et là, vous rejoignez un peu Joël Pomera sur le monde du travail, parce qu'il y a un certain nombre de pièces de Joël Pomera sur le travail, que ce soit La Chambre froide, La Grande Fabuleuse Histoire du Commerce.
Oui, bien sûr, mais c'est un thème qui je pense qu'il est jamais, il ne peut pas être épuisé. Parce qu'il y a tellement, c'est le monde du travail évolue tellement vite et il y a tellement de ramifications. Et finalement, c'est la chose qui nous affecte le plus, en fait. Et bon, pas nous, les artistes, parce qu'on est un peu à l'abri de ça. On ne fait pas un travail. C'est pas un travail. Moi, je ne conçois pas l'écriture ou la mise en scène comme un travail. C'est vraiment voilà, c'est presque un... Parfois, je dis que c'est presque un hobby. C'est presque un... voilà, c'est quelque chose. Et tu te poses pas un plaisir. Ouais. Voilà, tu le fais pas pour. Tu vas pas au travail pour le faire. Tu le subis pas. Je l'ai jamais subi. Après, j'en sais rien. Peut-être qu'au moment où tu fais des commandes et tu enchaînes des commandes, peut-être que tu peux le subir aussi. Il y a un stress aussi dans le monde culturel lié au travail et tout ça. Mais bon, c'est autre chose. Le rapport est différent. Mais pour tous les gens qui travail, c'est juste, ils sont confrontés, c'est un sujet qui leur parle complètement. Et moi, l'endroit où je me suis rendu compte que les gens ont envie de parler de ça, c'est quand on a lu Pulvérisé dans les usines Renault, pas en entier, mais juste des fragments comme ça, à Saint-Priest et on avait peur. On s'était dit, mais les gens, ils vont être dégoûtés parce qu'ils sont sur leur temps de travail, dans l'entreprise, et ils vont écouter un texte qui leur parle de ça, mais ils ne sont pas intéressés, peut-être qu'ils ont envie d'un truc léger, tout ça. Mmh. Et en fait, ils ont été mais scotchés, ils rigolaient. Après, ils sont venus nous voir, ils nous ont parlé, ils ont dit, ah ben, il fallait mettre aussi ça, peut-être que vous pouvez mettre aussi ça, et vous savez que là, c'est encore pire ce qu'on a, parce qu'il y a ça, ça, ça. Et en fait, ça leur a beaucoup, beaucoup apporté. C'était presque une sorte de distanciation par rapport à leur quotidien de travail, tout ça.
Alors, justement, on parle de la langue. Votre écriture scénique, on trouve, est empreinte d'une singularité de la langue, en rupture avec les auteurs de votre génération. Comment est né ce goût pour ce style fragmenté ?
La plupart du temps, la forme vient de l'idée que je veux défendre de ce que j'écris. Par exemple, dans Pulvérisé, comme je savais que je parlais du monde du travail, de la sous-traitance, de la mondialisation, je savais qu'il y aura des personnages qui sont partout dans le monde, donc ça va être une parole éclatée. Et puis aussi, comme c'est un monde un peu neutre, comme ça, je ne voyais pas une parole directe, une parole à la première personne, donc je voulais parler des choses qui se passent à l'intérieur de ces personnages, parce que moi, je travaille beaucoup sur ça, sur ce qui m'intéresse, c'est l'endroit où la politique intervient et casse l'espace intime, où l'intimité ne peut plus exister à cause de l'intrusion du dehors, du social, du politique. Donc, j'avais envie de pénétrer dans cette intimité des personnages, mais je ne les voyais pas parler et exprimer cette parole. Au contraire, j'avais l'impression que cette parole, elle est tellement enfouie et que c'est la source de leurs problèmes et de leur impossibilité de vivre. Donc, c'est tout de suite qu'il y a eu cette deuxième personne, tu fais ça, comme si, parfois ça peut être même la voix intérieure du personnage, parce que même quand on marche dans la rue, parfois on se parle en employant, mais parfois c'est ça, parfois ça peut être un personnage extérieur qui les observe, je sais pas, ça, là c'est aussi au metteur en scène de voir, mais voilà, dès que je suis entrée avec le tu, j'ai réussi à suivre et tout a commencé à apparaître. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose lié au monde d'aujourd'hui, au fait qu'on travaille sur des ordinateurs et on navigue d'une fenêtre à l'autre. Nos cerveaux, je pense qu'ils sont un peu fragmentés, plus fragmentés qu'il y a 15 ans. Et d'ailleurs, je lisais quelque part qu'il y avait une étude qui disait que le cerveau des enfants d'aujourd'hui qui sont en train de grandir dans ce monde et qui sont déjà habitués à travailler des 2 ans avec les appareils, avec les iPads, tout ça, développe d'autres... Bon, j'ai pas la langue, spécialité, mais développe d'autres endroits, d'autres zones que nos cerveaux à nous qui ont été habitués à un autre type de pensée. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est que on est tellement bombardé par des choses et qu'on n'arrive plus à se concentrer sur une seule idée. Donc du coup, je pense que mon écriture suit un peu la même.
Oui, c'est le reflet un peu de...
Mais vraiment, c'est le thème et puis c'est aussi comment ça arrive.
Alexandra, moi j'aimerais revenir sur le thème du travail et le fait de subir le travail. C'est un thème assez récurrent dans votre œuvre. À mon sens, j'ai ressenti dans vos textes comme un cri dénonciateur. C'est le cas notamment de Burnout, mais aussi de Pulvériser, cette pièce à 4 voix à l'écriture tranchante. Qu'est-ce qui vous a amené à utiliser comme objet d'écriture précisément ces conditions de travail affligeantes que subissent certaines personnes à travers le monde ?
Moi, je pense qu'on a un devoir de passeur, les écrivains, les artistes. Et qu'il y a des gens, ça ne m'intéresse pas de parler des gens que je connais très bien. Je parle toujours des gens qui sont très loin de mon quotidien. Mm-hmm. Et c'est aussi une sorte de responsabilité, c'est aussi quelque chose de cet ordre-là. Et puis je me souviens, Burnout, quand j'ai écrit, c'était aussi un endroit où je voyais des amis, par exemple mes amis de lycée ou mes cousins, qui entraient dans le monde du travail. Et plus ils avançaient dans le monde du travail, plus la différence, comment dire, il y avait presque un précipice, il y avait un abîme entre nous, on n'arrivait pas, j'avais l'impression que je m'adresse à mes parents et ils me racontaient un peu comment les choses se passaient, donc c'était aussi quelque chose, moi je me sentais à l'abri de ça et en même temps confrontée à ça, et j'avais besoin d'en faire quelque chose. Et pour pulvériser, ce qui a déclenché, c'est que quand j'étais chez Renaud, bon, c'est pas une pièce qui parle pour que ça soit clair,
de Renaud. Non.
On est dans les box, téléphonie, tout ça, dans les boîtes internet. Mais quand j'étais là-bas, un ouvrier m'a montré un grand monteur, et il m'a dit, pour ce monteur, il y a 15 personnes de 15 pays qui ont travaillé et ils se connaissent pas. Et il y a quelque chose qui a déclenché tout de suite un imaginaire, et puis j'étais complètement choquée, même pas choquée, bouleversée par ça, parce que je me suis dit, c'est étrange comment dans un monteur il y a tellement des énergies différentes, des gens qui ont vécu des choses différentes dans d'autres pays et qui... Et puis j'ai commencé aussi, quand j'écris, je regarde beaucoup de documentaires. Par exemple, en pulvérisé, il y a un documentaire qui s'appelle China Blue, qui est accessible sur YouTube, et qui parle du quotidien des ouvrières du textile en Chine. Et c'est tellement affligeant de le voir que ça m'a fait un mal que tu peux pas ne pas faire quelque chose. Donc du coup, j'avais envie de faire passer cette parole encore plus loin. Moi, je me dis toujours, et je dis toujours aux comédiens quand ils entrent sur le plateau, vous ne parlez pas de votre endroit, vous êtes les porteurs d'une parole de ceux qui ne peuvent pas parler de ça, ou qui ne savent pas en parler, ou qui n'ont pas le droit d'en parler parfois. Donc c'est ces gens-là qui m'intéressent.
D'accord. Alexandra, vous êtes aussi l'auteur des dialogues et du scénario de Solitude, un film réalisé par Lyova Jeliki. Ce film, sélectionné par le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, a remporté plusieurs prix en février dernier. Vous voici lancé sur le chemin du 7e art. Quels sont vos projets cinématographiques pour la suite? Avez-vous d'autres projets de scénario ou même de film?
Oui, on veut développer le personnage de Solitude, qui est un traducteur qui travaille pour la préfecture de police pour traduire dans des cas où il y a des Roumains qui ne parlent pas français. Et c'est un personnage qui me fascine, et vraiment c'est aussi un moyen de parler de plein de réalités différentes. Et on a envie de développer le court-métrage, mais d'utiliser le court-métrage, mais sans, ça va être retourné, hein, mais cette histoire, de l'utiliser comme un déclencheur dans la vie de ce traducteur qui va complètement changer son point de vue sur son métier, sur le monde, puisque le film raconte une rencontre, en fait, et on voulait aller plus loin dans cette démarche. Donc là, on est en train de travailler sur le développement. Et puis j'en ai écrit d'autres. J'ai aussi réalisé un court-métrage moi-même sur un de mes scénarios. Et après, j'ai commencé tout de suite à écrire des longs-métrages. Et là, j'en ai trois qui sont déjà écrits. Donc il y en a un que Lyova Jeliki voudra réaliser aussi. Donc il avance sur les deux. Et puis il y en a un autre que moi j'ai écrit pour le réaliser moi-même. Donc voilà, il y a plusieurs projets. Comme je disais au début, là, depuis que j'ai découvert l'écriture cinématographique, quand j'ai une idée ou une histoire, tout de suite, je me rends compte... C'est l'histoire qui impose aussi le format. Donc, je sais quand c'est du théâtre, quand c'est du roman ou quand c'est du cinéma.
D'accord. Donc, parlons de la forme roman. Revenons à l'écriture. Vous êtes actuellement sur la préparation d'un roman qui s'intitule « Zone d'amour prioritaire », votre premier roman, qui sera publié à l'Arche éditeur en septembre 2013. Ce projet s'inscrit dans la continuité de votre travail d'auteur, avec une écriture d'une grande spontanéité, où vous parlez de la férocité de l'amour, un texte à deux voix, et qui ne laisse pas indemne. Parlez-nous un peu de ce futur roman.
C'est un roman que j'ai commencé à écrire suite à une émission à la radio. On parlait de quelque chose de très dur à entendre. On parlait de la situation de Chypre et du moment où les Nations Unies ont ouvert un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'anthropologie humaine, qui fait des fouilles dans les charniers pour retrouver les corps qui ont été enterrés dans les, suite aux événements des années 60-70, où il y a eu des guerres civiles, on les appelle pas des guerres civiles, mais des confrontations entre la population chypriote grecque et la population chypriote turque. Et en fait, ce qui m'a choquée, c'est que vraiment j'avais allumé la radio comme ça par hasard, parce que j'écoute beaucoup la radio, et je suis tombée complètement comme ça sur ce sujet. Et on parlait du moment où on retrouvait, où les familles retrouvaient les corps des disparus, mais 30 ans après. Ouais, 30 ans après. Et on parlait aussi de ces femmes qui ont attendu pendant toute cette période. Et qui était dans l'incertitude, qui espérait quand même que ces hommes vivent encore ou qu'ils reviennent et tout ça. Et ça m'a complètement bouleversée, et je me suis dit, mais est-ce qu'à un moment donné, tu peux te retrouver dans une situation d'attente, de disparition, mais la renverser, ne pas penser à la mort, mais te dire que la personne est complètement partie de ta vie parce qu'elle a voulu disparaître comme un... voleur. Et en fait, à la fin, 30 ans après, tu te rends compte qu'en fait, non, il a été tué pendant ces événements. Et donc, j'ai commencé à... Je n'ai pas fait quelque chose tout de suite. Je savais que ça ne peut pas être du théâtre, du cinéma non plus. À l'époque, j'écrivais même pas du cinéma, pour le cinéma. Donc, je l'ai porté. Et à un moment donné, il y a eu cette évidence. Je me suis dit, ça doit être deux femmes qui ont des âges différents et qui se retrouvent... Qui parle de cet homme et de cette absence, en fait. Elle parle d'une absence d'une manière différente. Et comment cette absence, elle influe sur leur vie et sur l'impossibilité de vivre et de construire une vie, une identité. Et c'était aussi... il y avait aussi l'envie de... Et à la fin, elle se retrouve et elle retrouve... Donc, on passe parfois d'un amour presque obsessionnel à la haine, parce que tu dis, c'est quelqu'un qui est parti sans laisser des traces, sans laisser une nouvelle. Et donc, ces deux femmes, c'est sa fille qui avait 2 ans au moment où il a disparu, et une femme qui faisait partie d'un amour de jeunesse impossible, qui a foiré, qui à un moment donné le perd de vue dans ces événements, et il pense qu'il s'est barré. Donc voilà, après, ça m'a pris beaucoup de temps de l'écrire parce que j'avais d'autres projets. Donc voilà, et c'est pareil, c'est décliné sur deux. Il y a une femme qui parle à la première personne et l'autre plan qui est raconté à la troisième personne. Et les deux plans se recoupent, donc c'est assez, s'entrecroisent. Donc c'est assez, je pense que ça, c'est une écriture assez rythmée.
Et intérieur aussi.
J'étais à Nicosie et j'ai même eu la chance d'entrer dans ce laboratoire. C'était complètement inattendu. Donc j'ai pu aller dans le No Man's Land où il y a tous les bureaux de Nations Unies. Et puis il y a encore des maisons. C'est ça qui est assez impressionnant. Quand j'étais là, bon, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont partis de là, parce que j'ai découvert, il y a aussi une ville qui s'appelle la ville disparue, Varosha. Qui est une ville qui a été encerclée par les militaires turcs quand ils ont occupé la partie nord de l'île, et qui est complètement... qui est une ville fantôme. Les immeubles sont restés comme ça, les gens sont partis, et il y a des objets qui sont restés à l'intérieur. Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas voir ça, mais on m'a raconté, les gens qui peuvent entrer dans les missions diplomatiques, ils font des visites là-bas, et la vie, elle est restée suspendue dans les années 70. Tout est complètement, c'est assez...
C'est incroyable.
Et donc j'ai placé l'action là-bas. Je me suis dit, cette femme qui raconte son histoire, elle a eu une maison là, et c'est là où elle a vu cet homme la dernière fois. Et donc là, c'est aussi ce qui est assez particulier au roman, c'est qu'on est dans deux temps différents. Il y a le temps d'aujourd'hui, c'est les années 2000, et il y a toute la temporalité, donc 65 jusqu'à maintenant. Puis pareil, ça voyage dans toutes les directions. On est en Amérique du Sud, en France, en Suisse, en Chypre.
J'ai hâte.
Très bien.
J'ai hâte de le lire.
Oui. Il faut. J'aimerais évoquer maintenant le Salon du Livre de Paris, qui fait honneur à la Roumanie cette année. Vous allez faire une signature de vos livres sur le stand de la Roumanie le 24 mars prochain, de 16h à 17h. Que représente pour vous, Alexandra, cette mise à l'honneur de votre pays natal au sein de cette immense manifestation culturelle?
Ah, là, je sais pas quoi dire. Je pense que c'est important parce que La littérature roumaine, elle n'est pas si traduite en France. Mmh. Et elle commence, elle est traduite, mais je pense qu'on pourrait traduire encore plus.
Je crois que c'est un événement très important.
Il y a des auteurs, qui sont très intéressants. Donc, il y a des jeunes auteurs aussi. Mmh. Nicoletta Essinencu, elle fait partie de ces auteurs. Elle est traduite en français, mais elle est publiée. Il y a juste un livre qui est publié. Donc voilà, je pense que ça sera aussi l'occasion de...
Il faut sortir des sentiers battus, de la Roumanie, des clichés.
Il faut faire connaître aussi la littérature.
Dracula, etc. Donc il faut en sortir. Ouais.
Et en général, bon, il y a des auteurs qui sont publiés dans des maisons d'édition importantes, mais en général, la littérature de l'Est, elle passe toujours dans des maisons d'édition spécialisées ou dans des créneaux, la collection atypique, très... Donc là, je pense que ça va donner un peu envie aux Français de lire autre chose et en maison d'édition de prendre des risques et de publier des auteurs qui viennent d'un pays qui n'est pas si loin, mais qui peut paraître assez lointain.
Mmh. J'aimerais terminer cette interview avec une question que vos lecteurs ou même nos auditeurs peuvent se poser. On vous l'a peut-être déjà posé d'ailleurs un peu en début de cette interview. Pourquoi écrivez-vous en français ? D'où vous vient ce lien en fait si étroit avec la langue française ? Et vous arrive-t-il d'écrire en roumain ? Mais ça, vous l'avez déjà un petit peu dit.
Oui, j'ai pas réussi. Si, j'ai écrit à un moment donné en roumain parce que je voulais faire une performance. J'étais invitée pour une résidence en Roumanie et j'avais besoin. Je voulais parler de quelque chose assez spécifique, donc j'ai écrit en roumain, mais c'était vraiment très compliqué. En fait, presque j'écrivais en français, je traduisais, mais c'était un exercice, ça vient pas spontanément, je me suis forcée.
D'accord.
Je pense que c'est très simple à la fois et très compliqué. C'est simple parce que moi j'avais 10 ans quand le régime est tombé, mais ça veut rien dire parce que de toute façon les manuels scolaires, toute la méthode d'enseignement, même aujourd'hui, elle est dans le prolongement de ce qui était avant. Donc il y a le pouvoir du professeur qui vient et qui te dit ce que tu dois penser sur des œuvres littéraires ou sur des auteurs ou sur... Et donc du coup le système c'était que presque tu devais apprendre par cœur les commentaires que d'autres ont écrits sur les poèmes de je ne sais pas quel auteur et les mémoriser et les réécrire. Et donc je pense c'est ça d'une part qui m'a pas donné envie de m'approcher de la langue. Mmh. Et puis d'autre part c'était comme on avait beaucoup de poèmes à l'honneur de la patrie, du président, de je sais pas quoi, c'est ce type de littérature, donc du coup les mots ont commencé à avoir une valeur de propagande. Donc pour moi par exemple dire en roumain le mot amour, je le ressens comme quelque chose de très ringard, empoisonné par cet amour de la patrie. Mmh. Tout de suite, il y a la référence un peu de propagande qui arrive. Donc, du coup, et la langue de bois qui... Donc, il y a ce rapport un peu bizarre. Et de l'autre côté, je pense que c'est aussi... en français, je sens que... Je ne suis pas complexée par la langue française parce que je me sens libre dans cette langue, parce que ce n'est pas une langue, on ne peut rien me reprocher. Ou moi, je me dis que personne ne peut me reprocher quelque chose dans le français parce que ce n'est pas ma langue et je peux faire ce que je veux. Il y a un peu ça, je pense. Tandis que la langue maternelle, c'est comme quelque chose comme ça, comme presque une camisole qui te tient. Et donc, quelque part, j'ai l'impression qu'au moment où... C'est aussi au moment où je suis arrivée en France que j'ai commencé à savoir qui je suis vraiment, à me chercher, à me découvrir, à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est aussi une sorte de liberté que j'ai gagnée en...
Une certaine prise de distance.
Dans la langue française, ouais. Et une certaine prise de distance, mais non, parce qu'en fait, je suis assez... je me sens assez proche de la langue. Mais... je pense que c'est ce qui est beau dans la langue française, c'est que c'est une langue qui n'appartient plus qu'aux auteurs français qui sont nés en France. C'est une langue qui circule dans d'autres territoires. Bon, en Roumanie moins, mais c'est ça aussi qui m'a donné envie de. Mais c'est pas. En fait, je l'ai pas choisi. Mon emploi, c'était vraiment de l'écriture automatique. J'ai écrit quelque chose. Je me disais que je vais écrire ça pour moi. Et ça sortait en français. Et parfois, ça sortait aussi en roumain, mais des moments, par exemple, les scènes qui se passent en Roumanie. Mais tout de suite, ça ralentissait l'écriture. Mmh. Donc, c'était pas un choix. Je me suis pas dit, bon, je vais écrire en français parce que je vis en France et c'est une langue que j'aime. C'était pas ça, c'était spontané.
Merci Alexandra, merci Colline.
Merci.
On se quitte avec le minutage et les flaques d'Artaud et Félix J.
Le minutage et les flaques sur le carrelage. Les types qui traînent et qu'on retrouve pas. Un bar américain, les cheveux dans les yeux, le goût des armes et des médailles en chocolat. Le minutage et les flaques sur le carrelage, les ingénieurs spécialisés repêchés, troués, le truc artificiel des actions répétées, la percussion des douilles sur le trottoir mouillé. Le minutage et les flaques sur le carrelage, l'accélérateur bloqué, le sourire du boucher, le rouge à lèvres frais, les bijoux en argent, le réflexe de l'œil d'avant, l'obturation. Le minutage et les flaques sur le carrelage, la seconde d'avant, la seconde d'après, le reflet du tissu dans l'éclairage à moitié jeté, à moitié suspendu. Le minutage et les flaques sur le carrelage, les mouvements trop larges, le commissaire qui sourit, l'armurier de la rue du Faubourg Saint-Denis. Et les flaques sur le carrelage, le parcours de la Brinks, tous les détails dans le journal, au tout petit matin, le carton plein. Minutes environ, la connexion du fil rouge avec le fil bleu, les flaques sur le carrelage, la confrontation finale, l'entrepôt qui prend feu.